Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Chauve, élancé, 1m98, maillot rouge des Bulls de Chicago, numéro 23, un basketteur s'envole de la ligne des lancers francs et écrase la balle dans le panier, 6 mètres plus loin. Sa silhouette dans les airs, bras tendu, balle à la main, les jambes en V, est devenue un logo. L'homme, 6 fois champion NBA, est une légende. Michael Air Jordan est à Paris. Amoureux de la France, il a tenu à ce que son club, les Charlotte Hornets, y dispute un match officiel. Code Source vous raconte son histoire, marquée par un drame, avec Eric Michel et Arnaud Detout, du service des sports du Parisien.
Le Grand Palais.
Le Grand Palais.
Vendredi 24 janvier, à Paris, les Charlotte Hornets, où joue le français Nicolas Batum, face aux Bucks de Milwaukee.
Le Louvre.
Mais pourquoi la NBA se met-elle au français?
Les Champs-Élysées. I could be French, bro.
Bien évidemment, il y a une énorme attente pour les spectateurs, puisqu'il y aura 16 000 privilégiés qui seront à l'Accor Hotel Arena. Pour cette rencontre, il y a eu 180 000 demandes, ce qui est énorme. Les places se sont vendues très cher, ça va jusqu'à 1 000 euros. Et ces dernières heures, on pouvait encore acquérir une place jusqu'à 4 000 euros au marché noir.
Arnaud Detout, c'est la première fois qu'un vrai match de NBA, de saison régulière, est disputé en France. Ça représente quoi pour les fans ?
Pour eux, c'est énorme. Ils vont pouvoir assister à un match, voir les joueurs à quelques mètres d'eux. Et pour certains, c'est 40, 50, 60 ans d'attente pour voir un premier match. Et la rencontre a été officialisée il y a à peu près un an. Et depuis un an, le compte à rebours est dans leur tête en se disant « ça y est, on va bientôt assister à ce premier match tant attendu ».
Et l'une des attractions de cette rencontre, c'est le propriétaire des Charlotte Hornets, Michael Jordan. Il n'a pas joué de match professionnel depuis 17 ans et pourtant, Eric Michel, c'est le sportif le mieux payé au monde.
Michael Jordan, il a gagné en 2019 145 millions de dollars. Messi, il en a gagné 110. Ronaldo, pareil. LeBron James, 85 millions d'euros. Même son idole, la seule idole qu'on connaisse à Michael Jordan, c'est Tiger Woods. Son seul modèle, sa seule référence, c'est Tiger Woods, le golfeur. Même Tiger Woods a gagné que 65 millions de dollars dans l'année. Sans rien faire, en jouant au golf, en fumant ses 6 cigares tous les jours, Michael Jordan gagne 145 millions de dollars par an.
Michael Jordan, c'est aussi des paires de baskets Nike, les Air Jordan. Combien est-ce qu'il s'en vend chaque année?
Il s'en vend aujourd'hui 100 millions par an, tous les ans, depuis 1984. La firme qui les vend, c'est Nike, c'est son sponsor. La firme, à la virgule, elle gagne 3 milliards de dollars par an, rien qu'en vendant ses chaussures et en vendant les produits de la marque Jordan Brand, parce que la marque de Michael Jordan, c'est Jordan Brand. Donc Nike gagne 3 milliards de dollars grâce à Michael Jordan et Michael Jordan touche des royalties sur toutes ses chaussures.
Aujourd'hui, Michael Jordan va sur ses 57 ans. C'est donc un homme d'affaires richissime. Il est marié ?
Il est marié. C'est un deuxième mariage parce qu'il a été marié pendant plus de 20 ans avec une première épouse qui s'appelait Juanita, avec qui il a eu 3 enfants. Et il s'est remarié il y a quelques années avec une mannequin cubaine qui s'appelle Yvette Prieto, avec qui il a 2 jumelles qui sont nées en 2014. Et puis là, il est heureux. Il vit dans une maison en Floride qui vaut 12 millions de dollars avec son golf privé dans le jardin, 18 trous, une piscine. Enfin, il a une vie de rêve.
On va va revenir sur sa vie et sa carrière avec vous deux, Éric Michel, Arnaud Detout. Michael Jordan est né le 17 février 1963 à New York, à Brooklyn. Mais il grandit en Caroline du Nord, dans le sud-est des États-Unis, et il découvre le basket très jeune.
Très jeune, mais son premier sport, c'est pas le basket, paradoxalement, c'est le baseball, parce que son père, James, était un fan de baseball. Et au départ, Michael Jordan voulait faire du baseball. Les premières photos qu'on connaît de lui, il a une batte de baseball dans les mains, une casquette de baseball sur la tête. Et puis il s'est rapproché du basket parce que son frère jouait, son grand frère, qui lui n'a pas fait carrière.
En 1978, il a 15 ans et il se trouve trop petit.
Il mesure 1m80 et il est donc dans son équipe au lycée, la Hemsley A. Lenley High School. Il se trouve trop petit également pour son entraîneur qui ne le fait pas jouer. Il n'est pas dominateur puisqu'il se retrouve avec l'équipe réserve. Mais l'année suivante, il va prendre 10 cm, il va mesurer alors 1m90. Pour son poste arrière, c'est une taille très intéressante. Et à partir de ce moment-là, son coach va l'incorporer au sein de l'équipe Fagnon. Et là, il va être déjà très très fort.
En 1981, Michael Jordan a 18 ans et le basket va prendre beaucoup plus de place dans sa vie.
Il intègre une grande université, l'université de North Carolina, donc dans son état. Ce qu'il faut savoir, ce dont on ne se rend peut-être pas compte ici en France, c'est que le championnat universitaire américain, il est presque plus populaire que la NBA parce que toutes les facs américaines ont leur équipe de basket. C'est très 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 populaire aux États-Unis. Il remporte le titre en 82 en marquant le dernier panier à la dernière seconde du match de la finale. Pendant toute sa carrière, il va jouer avec deux shorts sur lui, le short de Chicago évidemment qu'on voit, et en dessous il aura toujours le short de North Carolina en fil en dessous en guise de porte-monnaie.
Michael Jordan progresse beaucoup et en 1984, il entre dans la cour des grands.
Draft 1984, chaque année, les plus petites équipes ont l'occasion de choisir le meilleur joueur universitaire du moment. L'équipe des Chicago Bulls n'ont pas le premier choix, seulement le troisième. Chicago le choisit donc en troisième choix et pour lui, ça va être les premiers pas dans la NBA, le plus grand championnat de basket au monde.
Juste après son recrutement à Chicago, il va devenir champion olympique en 1984 à Los Angeles. Comment se passent ses débuts avec les Bulls de Chicago ?
Un peu compliqué parce que les Bulls à cette époque-là, c'est une toute petite équipe de NBA et tout Michael Jordan qu'il est, il ne peut pas gagner les matchs à lui tout seul. Et puis il y a encore des très grandes équipes à cette époque-là. Il y a Los Angeles avec Magic Johnson, il y a Boston avec Larry Bird, il y a une grosse équipe qui arrive, c'est Détroit. Donc Jordan, il va prendre du temps, puis il va apprendre qu'un match de basket, ça se joue à 5, ça se gagne à 5. Donc les Bulls vont mettre du temps à se construire autour de lui et avec lui, évidemment.
Il est comment à ce moment-là avec ses partenaires, avec ses coéquipiers ?
Comme il a toujours été dans sa carrière, c'est-à-dire très exigeant. Beaucoup de ses coéquipiers ont dit qu'il était assez abject. Ah, il était extrêmement dur avec eux. Déjà, Michael Jordan ne supporte pas de perdre en général, mais perdre à cause d'un coéquipier, c'était juste impossible.
Éric Michel, vous avez vu jouer Michael Jordan plusieurs fois. Il est comment sur le parquet ?
Larry Bird, pour revenir à lui, a dit un jour, après que Michael Jordan lui ait marqué 69 points dans un match contre Boston, a dit « Ce soir, j'ai vu Dieu déguisé en Michael Jordan ». Quand il joue au basket, tout paraît tellement simple et tellement fluide que ça en est extrêmement impressionnant. Il est capable de mener, il est capable d'aller au rebond, il est capable de dunker, de tirer à trois points, de défendre. Aucune faiblesse dans aucun compartiment.
C'est un adepte du trash-talking, c'est-à-dire qu'il aime provoquer ses adversaires, parfois les insulter, les faire dégoupiller. Ah, tu vas le rater, ah, t'as vu, je viens de réussir mes 5 derniers shoots, toi t'as raté les deux, bah écoute, voilà, va t'entraîner. Voilà, c'est des petites phrases comme ça, à des moments clés d'un match, qui peuvent faire perdre la lucidité à ses adversaires.
En 1989, Michael Jordan sort une cassette vidéo, une VHS, que ses fans vont regarder en boucle, comme Fly With Me. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette vidéo ?
Yesterday's Little League hero has become today's most captivating athlete.
Comme Fly With Me, c'est Viens voler avec moi, ce qui résume Michael Jordan. Faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est qu'à ce moment-là, pour voir de la NBA, c'est pas possible. Canal Plus commence à en retransmettre, mais souvent les matchs, ils arrivent 3 jours après le direct, donc c'est très compliqué quand on a 20 ans de voir des matchs NBA à la fin des années 80. Ça arrive par avion, puis il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et puis il y a cette cassette qui sort un jour, qui arrive sur le marché, une cassette VHS. On voit qui il est, parce que beaucoup à cette époque-là, Jordan, c'est juste une photo, c'est juste un nom. Et là, on découvre son crâne lisse, ce sourire assez extraordinaire, et puis ses arabesques. On le voit faire des dribbles, des smashes. C'est qu'il saute haut et en même temps il peut sauter loin.
Des fois on a l'impression qu'il est suspendu en l'air, c'est ça ?
Il y a eu des calculs qui ont été faits où il reste plus d'une seconde en l'air comme un hélicoptère en vol stationnaire. Il vole.
En 1991, il remporte son premier titre de champion NBA avec les Bulls.
Le moment est venu pour les Bulls de conclure leur course au titre. Les Lakers impuissants les regardent filer vers la victoire.
Et l'année suivante, ils participent aux JO de Barcelone avec ce qu'on appelle la Dream Team.
Le mot Dream Team qu'on utilise un peu aujourd'hui pour tout et pour rien vient de cette équipe. Outre Michael Jordan, il y a Magic Johnson, Larry Bird, John Stockton, Scottie Pippen, Karl Malone. Pour beaucoup, à leur poste, restent aujourd'hui quelques-uns des meilleurs joueurs de l'histoire. Et évidemment, cette équipe gagne tout largement en étant absolument extraordinaire. Tous disent aujourd'hui que le match le plus dur de leur carrière, c'était un match d'entraînement entre eux, 5 contre 5, à Monaco, parce qu'on avait là les meilleurs joueurs de l'histoire, les meilleurs joueurs du monde, qui se sont affrontés, et comme ils sont tous des égos surdimensionnés, bah personne ne voulait perdre. Et bien sûr, ils deviennent champions olympiques en gagnant tous leurs matchs avec plus de 20 points d'écart, et le jour de la finale, il y a un petit garçon en Normandie qui regarde le match. Il faut savoir que pendant la Dream Team, Michael Jordan est le numéro 9, ce petit garçon c'était Tony Parker, il regarde le match, et toute sa carrière, Tony Parker portera le numéro 9, en hommage au Michael Jordan qu'il a vu ce jour-là. En finale NBA.
Michael Jordan, c'est mon idole, c'est lui qui m'a donné envie de jouer au basket.
Arnaud Detout, au début des années 90, avec les Bulls, Michael Jordan cumule les titres.
L'apprentissage est terminé, il est doté d'une équipe avec des joueurs, des lieutenants qui sont capables de l'aider au mieux. Et Michael Jordan déroule son basket, il enchaîne les titres en étant champion en 91, 92, 93. À ce moment-là, il est à son apogée. Au-delà d'être un carnassier sur le terrain, c'est un joueur spectaculaire. Il réussit tout ce qu'il entreprend.
Il a qui à ses côtés ? Il a aidé les autres à progresser ?
Absolument, notamment Scottie Pippen, son fidèle lieutenant, mais également d'autres joueurs un petit peu moins connus comme Bill Cartwright ou Paxson, Perdue également, des joueurs assez anonymes, mais à son contact, ils ont énormément progressé, et ce qui a permis cette équipe des Chicago Bulls de devenir injouable et d'enchaîner trois titres de champion d'affilée.
Eric Michel, en juillet 1993, le 23 juillet 1993, Michael Jordan va perdre son père, James Jordan, brutalement.
Ce jour-là, de juillet 1993, il roule tranquillement sur une autoroute en Caroline du Nord et il tombe sur deux malfrats qui veulent juste lui voler sa voiture. Mais Monsieur Jordan résiste et les deux voyous finissent par sortir une arme et lui tirer dessus. Ils le tuent. Ils se rendent compte qu'ils ont commis l'irréparable, ils cachent la voiture, ils cachent le corps. Ils se rendront compte quelques heures plus tard, en entendant des appels à la radio, que la personne qu'ils ont tuée, c'est le père de Michael Jordan. Ce qui est le plus fou et le plus dramatique dans l'histoire, c'est que ces deux gars-là, c'était des fans de Michael Jordan, et ils vont se cacher pendant des jours avant qu'on les retrouve et qu'ils soient condamnés à la prison à vie.
Quelques mois plus tard, en octobre, Michael Jordan fait une annonce.
J'arrête le basket, il annonce sa retraite.
Malheureusement, son amour du basket n'a pas survécu l'été 93.
C'est la conséquence directe de ce drame, le fait qu'il ait perdu son père, parce que son père était son modèle, son idole. Et jouer 82 matchs dans la saison sans son père, ça n'avait plus de sens pour lui, il fallait qu'il fasse un break. Il en a marre du basket, il en a marre de la vie qui mène, de se cacher des paparazzi, de se cacher de la foule. Il veut rentrer chez lui et qu'on le laisse tranquille.
Michael décide de prendre sa retraite pour s'occuper de Juanita, sa femme et leurs trois enfants. Que va-t-il faire maintenant ? Jordan deviendra peut-être baseballeur ou golfeur professionnel. Mais on devrait retrouver cet acteur né, pourquoi pas, un jour dans un film hollywoodien.
Qu'est-ce qu'il fait pendant sa retraite ?
Il va jouer au baseball, c'est une promesse qu'il avait faite à son père. Donc il va aller jouer au baseball dans une équipe de deuxième division du championnat américain, parce qu'on a beau être Michael Jordan, être le plus grand basketteur de tous les temps, ça fait pas de vous le plus grand baseballeur de tous les temps. Donc il va aller s'entraîner comme un fou et apprendre le baseball, qu'il n'a jamais eu le temps de faire durant sa carrière de basketteur. Mais il ne sera jamais un grand joueur, il sera un joueur de deuxième zone. Ce qui est rigolo, c'est que les joueurs qui étaient en face de lui étaient des fans de Michael Jordan, le basketteur. Ce que beaucoup ont dit plus tard, c'est qu'ils n'ont pas frappé fort. Ils ont laissé des fois Michael Jordan gagner, marquer des points. Parce que c'était Michael Jordan, c'était aussi leur idole, donc c'est très 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 bizarre. Et puis pendant cette période, Michael Jordan aussi était acteur de cinéma, il a tourné un film, Space Jam, c'est le film dans lequel il joue contre Bugs Bunny et tous les Looney Tunes.
Michael, do you know what time it is?
Quarter past seven.
Exactly, you've got a baseball game in 5 minutes.
Okay, gotta go. Bugs.
Mike.
Stay out of trouble.
You know I will.
C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film rigolo. Où d'ailleurs, au début, il est joueur de baseball. Dans ce film, il redevient basketteur à la fin, quoi.
Au cours de la saison 1994-1995, en avril 1995, Michael Jordan publie un communiqué de presse.
Un communiqué de presse, c'est beaucoup dire. C'est juste trois mots. I'm back.
Elvis is still dead, but Michael Jordan is back.
Je suis de retour. Il a envie de rejouer au basket. C'est un moment incroyable parce que le plus grand joueur revient. On a un peu oublié, même ici en France, on regardait moins la NBA parce que Jordan n'était pas là. Et le jour où il annonce son retour, tout recommence. Il rejoue à Chicago, il rejoue dans son équipe. Il ne porte pas son fameux numéro 23 parce que, entre-temps, aux États-Unis, on retire les maillots des grands joueurs, on les retire au plafond. Il porte le numéro 45, celui de son frère quand il jouait devant la porte du garage. Il porte pendant quelques mois le numéro 45, mais il revient à Chicago presque comme si de rien n'était.
C'est un retour un petit peu difficile avec son équipe au départ, puisque la première année, quand il revient, Chicago est dans les bas-fonds. Grâce à son apport, Chicago va remonter au classement, se qualifier pour les playoffs, mais va échouer d'un cheveu pour aller en finale NBA.
Des finales qu'ils atteignent la saison suivante, la saison 1995-96.
Ça se passe comme dans un rêve pour les Chicago Bulls qui vont écrabouiller leur adversaire, les Sonics de Seattle. Ils vont remporter cette finale 4 manches à 2 et à la dernière manche, il va gagner en étant bien évidemment très très fort, en marquant beaucoup de points. C'est le jour de la fête des pères, il va s'écrouler sur le parquet en pleurs. Il pense à son père et pour lui, c'est aussi un retour par la grande porte. Il gagne de nouveau et il montre qu'il est une fois de plus sur le toit du monde.
Et dans la foulée, il va signer un triplé. 3 titres de champion NBA avec les Bulls.
Jordan, open, Chicago with the lead.
Il gagne en 96, 97, 98. Avec ce qui reste sans doute aujourd'hui la plus grande équipe de basket de tous les temps, hors Dream Team évidemment, mais la plus grande équipe de club, les Chicago Bulls, qui reste aujourd'hui mythique. Si on voit encore aujourd'hui dans les rues de France des gens avec le maillot du taureau dans le dos ou des blousons, c'est avec cette équipe des années 96-98 où Jordan est le roi du monde.
Le 13 janvier 1999, il annonce une nouvelle fois sa retraite sportive. Il va prendre des parts dans un autre club, les Wizards de Washington. Mais en septembre 2001, Michael Jordan, à l'âge de 38 ans, revient sur les parquets.
Il le fait en septembre 2001. Le timing n'est pas très bon parce qu'on est quelques très courtes semaines après les attentats du 11 septembre. Donc l'annonce passe assez inaperçue. Mais il revient à Washington et pas à Chicago parce qu'il a pris des parts à Washington. Mais son équipe, elle vivote, personne n'en parle, personne ne la connaît. Et il se dit, pour faire parler de mon équipe, quoi de mieux que d'embaucher le meilleur joueur. Et le meilleur joueur, c'est moi, donc il rejoue.
Donc il joue pendant un an et demi avec les Wizards de Washington. Et le 16 avril 2003, c'est un jour tout à fait particulier pour lui.
Alors, il avait annoncé en cours de saison que c'était là, pour le coup, sa dernière saison et la bonne, parce que le bonhomme, il arrive à 40 ans, en avril 2003. Les Wizards sont éliminés, donc il faut bien que la saison s'arrête. Et elle s'arrête, le hasard le veut, à Philadelphie. Tout le monde sait que c'est le dernier match de Michael Jordan, parce qu'il n'y aura pas d'autre derrière. Tout le monde s'y attend. Tout le monde attend ce moment où on va pouvoir l'honorer. Et Michael Jordan donc sort 2 minutes avant la fin du match, comme si de rien n'était, comme si c'était un match normal. Sauf qu'à ce moment-là, toute la salle se lève d'un seul homme, l'applaudit. Pendant des minutes, il y a un brouhaha indescriptible. Tous les joueurs vont le saluer, tous les joueurs vont l'embrasser, tous les arbitres vont l'embrasser. La table de marque se lève, c'est un moment unique. On laisse une légende s'en aller à ce moment-là.
Michael Jordan salue le public de la main. Il sourit en mâchant son chewing-gum, va s'asseoir, se gratte l'oreille, baisse la tête comme s'il était gêné. Il a du mal à retenir ses larmes. Les applaudissements durent 3 minutes.
Et dans le monde du sport, c'est considéré comme la plus longue standing ovation de l'histoire.
Des années plus tard, il raconte ce souvenir de l'amour que lui a donné le public ce jour-là en remerciement de ce qu'il avait apporté au basket.
It was how the fans and the players respected me and gave me their love for what I did for the game of basketball. That I remember the most about that game.
Merci à Éric Michel et Arnaud Detout. Épisode conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Clara Garnier-Amourou, réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et puis n'hésitez pas à nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Thank you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.